Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Et bien dans cette deuxième tranche de l'émission, nous allons parler de la lutte efficace contre la pollution de l'information. Vous savez, les fake news ainsi que le journalisme de bas étage se développent de plus en plus avec l'avènement des réseaux sociaux, et chaque jour des fausses informations atterrissent dans nos téléphones. Les fake newsers, si on peut les appeler ainsi, publient souvent des sujets qui choquent ou engendrent des émotions, le sensationnel, poussant ainsi les internautes à les partager sans prendre le temps de les analyser. Alors cette situation s'apparente à une sorte d'épidémie qui pollue le contenu médiatique. Par ailleurs, la recherche du scoop ou de la primeur, voilà, l'exclusivité par les journalistes appelés youtubeurs contribue aussi à la propagation des fausses nouvelles. Alors comment lutter efficacement contre la pollution de l'information en République démocratique du Congo? Comment différencier la bonne de la fausse information? Nous recevons aujourd'hui Monsieur Patient Ligaudy. Il est directeur général d'actualité.cd et auteur du livre Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en RDC. Patient Ligaudy, bonjour.
Bonjour cher Jody et bonjour également à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service. Alors, nous parlons des fake news. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par fake news? On en parle de plus en plus.
En fait, on est dans un monde où l'information est devenue, on va dire, accessible à tout le monde. Avant, quand on avait besoin de l'information, on n'avait qu'allumer la radio et on avait l'information le matin ou à midi avec un programme, un rendez-vous bien déterminé. On pouvait allumer la télévision, on pouvait acheter un journal où on avait accès qu'aux informations qui passaient par le cadre qui était bien identifié. Maintenant, avec le boom du numérique, le boom de la téléphonie mobile, tout le monde a accès à l'information, tout le monde a accès au contenu informatif. Mais en ayant accès à ces contenus informatifs, tout le monde n'utilise pas, on va dire, ces devices, ces téléphones, de la même manière qu'un journaliste formé devait le faire. Parce que la manipulation, on va dire, le fait de traiter l'information, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir des outils, il faut avoir des techniques pour savoir traiter l'information avant de la rendre accessible à tous. Il se trouve malheureusement qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à ses téléphones et tout le monde a accès à Internet et peut diffuser. Et malheureusement, l'information journalistique est maintenant en compétition avec l'information de la rue, avec la rumeur, avec, on va dire, du contenu qui n'est pas très bien mâché, qui n'est pas bien traité, qui n'est pas ainsi de suite, et qui est placé sur la place publique. En même temps, vous avez également des informations qui proviennent des sources qui faut les dire, ne sont pas des sources avec une bonne moralité et qui ont des objectifs bien précis et pour désorienter. Qu'est-ce que fake news? On appelle une fake news, on va dire, c'est tout contenu informatif qui est distillé dans la population dans les buts de pouvoir désorienter, dans les buts de pouvoir mal orienter, manipuler
voilà,
la population. Donc on a trois catégories plus ou moins de ce qu'on peut appeler fake news. On a ce qu'on appelle la désinformation, où on a l'intention de manipuler. On peut également avoir ce qu'on appelle la malinformation. La malinformation, c'est quand moi je fais mal mon travail de journaliste, où je n'ai pas beaucoup de j'ai pas bien travaillé, et donc je vous propose un contenu qui n'est pas bien à consommer. C'est un peu comme ce qu'on appelle la malbouffe, c'est-à-dire vous mangez quelque chose qui n'est pas bien pour votre appétit. À côté de la désinformation, la malinformation, on a aussi ce qu'on appelle la mésinformation, c'est-à-dire le fait pour quelqu'un de pouvoir distribuer une information malveillante sans avoir l'intention de pouvoir désorienter ou de pouvoir manipuler. Souvent, moi, j'appelle la mésinformation les syndromes de mon père. Vous savez, mon père, il est encore en vie. Lui, s'il reçoit une information, on lui dit, attention, Kinshasa, demain, il faut pas sortir parce qu'il y aura des gens qui viendraient de telle part et qui vont attaquer Kinshasa.
Et lui, tout bonnement...
Il me l'envoie directement parce qu'il pense me sécuriser. Il me l'envoie. Mais en le faisant, il participent à, on va dire, à la propagation de cette information malveillante qui va avoir, on va dire, un effet sur moi. Soit je ne sortirai pas, soit je vais également le partager et conséquence, on va avoir une société qui est déséquilibrée avec du contenu malveillant. Donc on a la désinformation avec l'intention de nuire, on a la mésinformation, le partage sans forcément l'intention de nuire, on a la malinformation avec notamment le fait de pouvoir partager du contenu qui n'est pas très bien fabriqué. Mais oui, il y a tout d'autres types de désinformations qu'on a également.
Bien, voilà. Et d'ailleurs, vous venez de publier un ouvrage intitulé « Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo ». Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à publier cet ouvrage ?
Je suis journaliste. Je travaille depuis 2003 dans l'écosystème médiatique congolais et je suis depuis 3 ans assistant d'enseignement à l'IFACIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Et je suis également entrepreneur dans le secteur de médias. Et j'ai initié quelques médias dans notre pays. Et la somme de cette expérience-là, des journalistes, des formateurs, d'entrepreneurs dans le secteur des médias, on remarque très bien que l'information journalistique ne pèse plus comme elle pouvait peser il y a des années. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, comme je le disais, où l'information journalistique se trouve en compétition avec ce que n'importe qui peut mettre sur... On a eu, par exemple, les cas de Mouyembe, docteur Mouyembe de l'INRB, qui, quand il dit quelque chose, lui qui est dans les laboratoires en tant que virologue, il partage sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous allez trouver quelqu'un qui n'a pas la même expérience, la même expertise que Dr Mouyembe et qui va dire que c'est faux. Forcément parce que, on va dire, on se met dans une situation où la bonne information, où l'info expertisée est en concurrence avec l'information, on va dire même pas l'information, mais avec des opinions des gens. Et donc, en constatant ces faits, moi je me suis dit qu'il était temps de pouvoir... questionner notre pratique journalistique aujourd'hui. Est-ce que le journalisme tel que nous la pratiquons aujourd'hui prend en compte cette dimension où vous n'êtes plus les seuls à partager du contenu informatif? Ça, c'est deuxièmement, on est dans un pays où vous avez, actuellement, on a 3 épidémies qui sont actives. On a l'épidémie de rougeole, on a l'épidémie de choléra, on a l'épidémie de monkeypox. Et généralement, ces épidémies-là tournent aussi avec ce qu'on appelle l'infodémie, c'est-à-dire des informations malveillantes qui ne permettent pas aux populations qui sont atteintes par ces épidémies de pouvoir suivre les instructions qui sont données par les autorités politiques et sanitaires.
Il y a souvent trop de rumeurs.
Beaucoup trop de rumeurs qui ne permettent pas de pouvoir éradiquer ces types d'épidémies. Donc, comment on fait? Quelle est notre expérience congolaise? Comment nous pouvons faire pour justement faire en sorte que ces infodémies-là puissent être combattues? C'est pour ça que j'ai fait notamment ce bouquin. La deuxième explication, c'est de dire qu'on est dans un pays qui connaît également la guerre. On a plus de 120 groupes armés. Si on doit prendre ces chiffres qui ont été notamment donnés par les autorités publiques congolaises, et ces groupes armés fonctionnent essentiellement, pardon, aussi avec ce qu'on appelle la désinformation. C'est-à-dire, quand vous regardez ce qui se passe dans l'Est de la RDC aujourd'hui, avec tous les trolls, avec toutes ces personnes qui propagent des rumeurs, les attaques ne sont pas que des attaques avec des bombes, c'est aussi des attaques avec des informations malveillantes.
Pour démotiver,
et déconstruire, déstructurer. Par exemple, si vous dites dans un village qu'il faut, il y a plus des militaires, il y a plus de casques bleus, donc vous êtes resté seul, l'une des conséquences serait, par exemple, les personnes peuvent quitter leur zone pour se jeter dans la rue et quitter, ainsi de suite. Donc bref, l'information comme arme de guerre est également utilisée dans ces contextes congolais. Alors le troisième, on va dire, la troisième raison pour laquelle cet ouvrage est écrit, c'est aussi parce qu'on est aussi dans un contexte où l'espace public congolais n'est pas alimenté par un débat public souvent éclairé. On l'a vu sur le terrain politique, particulièrement avec les élections de 2023, où le journalisme a eu du mal à exister face aux moyens mis en place par les différents candidats, qui étaient sur le terrain en utilisant des influenceurs digitaux, en utilisant
des
grosses armées numériques qui propageaient plutôt, on va dire, pas beaucoup d'informations sur les candidats, mais des attaques contre les autres candidats. Souvent, c'est des discours de haine, souvent, c'est des diffamations et consorts. Mmh. Et tous ces éléments-là, je veux dire, les terrains politiques, les terrains sécuritaires, les terrains sanitaires, constituent, on va dire, une sorte d'écosystème de la désinformation qui ne permet pas un débat public de qualité. D'où l'objectif, on va dire, de pouvoir mettre sur la place publique un document qui va partager ce qu'on fait à l'extérieur, mmh. ce que nous constatons dans notre pays et quelles peuvent être, on va dire...
Et c'est ça que vous qualifiez de pollution.
Alors, oui. En fait, la pollution, c'est quoi? L'exemple de la pollution, c'est par exemple votre tendre épouse, quand elle prépare pour vous une soupe, elle peut mettre beaucoup d'ingrédients qui marchent souvent et vous aimez sa soupe. Mmh. Mais en dépit du fait qu'elle a bien préparé sa soupe, si quelqu'un vient mettre du sable dans cette soupe-là, tout est détruit. La même chose avec l'information, c'est-à-dire les journalistes produisent du contenu sans avoir forcément l'envie de pouvoir désorienter, mais il y a aussi plusieurs autres sources qui envoient leur contenu qui, on va dire, fonctionne exactement comme la pollution de l'air.
Donc, oui, c'est effectivement une pollution.
Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est la pollution ici, c'est, on va dire, l'écosystème informatif du monde qui est alimenté non pas que par des journalistes, par d'autres sources d'informations qui peuvent être côté sanitaire, politique ou sécuritaire.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons Patti de Bandundouville et Omar Kigalo de Kinshasa. Nous parlons aujourd'hui de comment lutter contre la pollution de l'information, les fake news, etc. Patti, bonjour. Patti, vous
êtes... Daniel.
Oui, bonjour, oui. Patti.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à monsieur Patien Licodier.
Quelle est votre question, Patti?
Oui, par rapport à la thématique, le fake news, bon. Ce qui donne naissance au fake news, c'est l'absence d'une bonne information. Quand il n'y a pas une bonne information, il y a lieu qu'il y ait des fake news. Et lui, qui n'en connaît pas, il peut profiter, il vient avec les mensonges, il le propage, et parce qu'il n'y a pas de fake news. Et il arrive aussi, il y a quelqu'un qui a, surtout vous là les journalistes, parce que les gens souvent qui apportent des fake news, la plupart, 80% sont toujours vos confrères journalistes. Surtout qu'ils sont sous un climat politique. Vous trouvez un journaliste qui n'est pas tellement indépendant financièrement, il n'est pas indépendant, donc il est sponsorisé par les politiciens, de la politicienne congolaise. Bon, quand il est sous cette atmosphère-là, même quand c'est A, lui dira que non, c'est B. Quand c'est C, il dira que non, c'est Z. Quoi? Il est sous la pression. D'où il faut qu'un journaliste soit indépendant. Vous voyez que vous, la façon dont vous travaillez là, hein, vous êtes un peu libre, hein? Donc vous êtes libre, vous donnez les informations, vous êtes libre. Même votre confrère là, Patient Ligodi, moi je le suis sur Radio France Internationale, il est libre, il donne les informations, donc il est libre. Après, il retourne chez lui, il dort. Il n'a pas de compte à rendre à un politicien. Mais une fois, même si vous là, monsieur Jody, vous vous retrouvez sur la conduite d'un politicien, mais vous serez aussi un meilleur dans les fake news. Donc, d'où il faut qu'un journaliste soit bien équipé. Il est là où il travaille, là, qu'il soit bien payé. Et puis, vous devez vous détacher des politiciens. Nous avons des journalistes, des meilleurs journalistes à la RTMC. Non, nous devons suivre ces gens-là. Mais ce sont des journalistes au même titre que vous aujourd'hui, au même titre que votre confrère là, qui est avec vos directeurs de la France là. Mais ceux qui le rendent comme service, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Maintenant, vous aussi vos radios qui sont fiables, comme la radio Capi, là. Autrefois, moi je me souviens quand j'étais encore un tout petit enfant comme ça, j'écoutais les gens suivaient la radio Capi par les ondes courtes. Une petite radio comme ça, et puis on vous cherchait là par streaming, et puis on vous trouvait. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus là, on vous suit par FM, il y a des médias qui vous relient, des choses un peu comme ça.
D'accord, merci. Donc, Patien, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Patti. On va accueillir Maître Omar Kigalo de Kinshasa. Bonjour. Maître Omar, bonjour. Bien, il n'est plus là. Il est là? Bonjour.
Là, allô?
Oui, Maître Omar, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la pollution de l'information?
Merci, Monsieur Jody, du verbe que vous m'adjugez à nouveau. Merci aussi à Monsieur Patient Ligodi.
Je dis avant tout, c'est avec amertume que j'interviens parce que lors de la première thématique, M. Ouyoumbou m'a traité d'un juriste mal formé. Il faut dire aux invités qui pensent que être invité ne fait pas d'eux de super intelligents, non. On peut être auditeur et mieux qu'un orateur. Donc lorsqu'on a un avis contraire à celui de l'intervenant, il faut le faire avec modestie, car nul n'a le monopole de la connaissance.
Alors, désolé pour cela.
Il doit vraiment retirer sa prochaine main, oui.
D'accord,
je
désolé.
Je n'ai pas aimé ce langage.
Ok, d'accord.
Merci beaucoup, M. Joly. Par rapport à mes questions, je veux à la première observation, M. Ligaud, dis-moi, je pense, je l'ai toujours dit, la première technique, c'est la vérification des sources. Vous dites vous-même dans la presse qu'il y a des sources premières, des sources officielles et des sources occasionnelles. Je crois une personne sérieuse doit vérifier la source d'une information avant de la divulguer. Des deux, il faut identifier les auteurs. C'est ce qu'on appelle en criminologie la personnalité de l'infracteur. Est-ce que la personne qui relaie l'information en a la capacité ou la qualité? Et enfin, j'ai toujours proposé la répression. Aujourd'hui, avec la loi du numérique qui a été votée en 2023, on a renforcé la répression. Tout celui qui relaye, c'est l'article, si je ne me trompe, 315. Tout celui qui relaye une fausse information dans le but de nuire une personne doit être sanctionné par la loi. Donc si on commence à sanctionner, les gens cesseront. Je passe à mes questions, je dis rapidement à M. Ligaudi. Comment détecter un fake news à l'ère du numérique où la technologie nous impose sa dictature? Comment on peut détecter facilement un fake news? Deuxième question. On a aujourd'hui une pollution aussi des journalistes qui passent le temps à dire n'importe quoi. Quelle différence faites-vous entre un animateur, un chroniqueur et un journaliste? Nous qui ne sommes pas de la communication, nous avons des difficultés parce que tout le monde s'improvise aujourd'hui journaliste. Pouvez-vous nous faire cette différence? Troisième question. Est-ce qu'un non-diplômé en journalisme peut devenir un bon journaliste? Parce que d'après vos propos, il faut être formé, il faut passer à l'IFASU, quoi, la communication, l'INICUNO ailleurs. Mais est-ce que quelqu'un qui vient du droit, de l'histoire, ceci, peut devenir un journaliste? Quatrième et dernière question. Est-ce que c'est permis dans votre métier? Je parle plus du journaliste parce que c'est lui qui est la clé ou le moteur de la pollution. Est-ce que un journaliste peut être partisan? Je suis une émission Club 50 de l'un de vos confrères. Vous allez vraiment sentir que ce journaliste est tshisekédiste, l'autre est kabyliste, l'autre est fayouliste, l'autre est katoumbiste. Et ils s'identifient comme tels et ils sont fiers. Et ça nous laisse perplexes. Est-ce qu'un journaliste peut être partisan? Est-ce permis ou c'est une déviation? Parce que si c'est pas permis, ça peut être la cause de la pollution. Voilà, M. Joly, mes questions. Je vous
remercie. Merci à Maître Omar. Patient Ligaudi, à vous la parole.
Je veux dire encore merci. Je crois que je vais commencer par le deuxième intervenant, donc Monsieur Omar.
Omar.
Oui, j'ai déjà pour la première de question, évidemment qu'on a quand on regarde le code du numérique, un arsenal qui permet notamment de réprimer la désinformation. Est-ce que vous avez dit nul n'a le monopole de la connaissance, est-ce qu'il y a une très bonne chose en fait, puisque dans la lutte contre la désinformation, c'est le travail de tout le monde, c'est le travail de l'État, c'est le travail de l'école, c'est le travail de nos familles, c'est le travail des parents, c'est le travail des amis, c'est vraiment un travail de tout le monde qui demande une coalition d'efforts pour qu'on arrive à avoir un débat public sain, parce que ici la clé c'est ça. Si on peut pas avoir un débat public sain si les sources qui apportent l'information ne sont pas de bonnes sources. Alors, comment détecter le fake news? Il y a plusieurs possibilités pour détecter les fake news. Et je commençais mon propos en définissant plus ou moins, en catégorisant ce qu'on appelait à fake news, notamment la désinformation avec l'objectif de nuire. Mais cette désinformation là, si elle passe par les moyens numériques, vous avez le travail, ce qu'on appelle le fact-checking. Le fact-checking qui est une technique, un ensemble de techniques mises en place pour arriver à détecter la source d'une information ou d'un contenu informatif. Vous avez par exemple des photos qui sont décontextualisées, hein, une photo qui a été prise par exemple dans une fête, on va vous dire ben voici telle personne, son travail c'est de boire ainsi de suite, alors que la photo a été prise dans un autre contexte.
Dans un autre contexte.
Oui. On a également ce qu'on appelle les deep fakes qui veut dire l'on peut prendre votre visage et puis l'on vous fait dire des choses alors que ce n'est pas vous. De suite. Là encore, il y a aujourd'hui des logiciels qui permettent de pouvoir détecter les deepfakes. On peut avoir aussi des deepfakes, on va dire, sonores où votre voix est clonée. Où vous avez votre voix qui est, on va vous faire dire des choses alors que c'est pas vous qui les dites. On a aujourd'hui aussi d'autres logiciels qui permettent de pouvoir détecter quelles sont, on va dire, les voix qui sont clonées et qui ne sont pas authentique. On a aussi d'autres techniques qui sont utilisées de fact-checking, mais là encore, il faut que l'on arrive à détecter. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de faire ce qu'on appelle l'éducation aux médias et au numérique. Il faut que les gens soient habitués au contexte et à la culture numérique. Il faut connaître plus ou moins comment les réseaux sociaux fonctionnent, connaître comment les plateformes numériques fonctionnent, connaître qui sont, on va dire, les personnes qui sont sensibles, qui sont sensibilisées ou qui sont équipées à pouvoir partager les fake news. On détecte les fake news par les moyens techniques, on détecte les fake news surtout par sa capacité à pouvoir ne pas avoir la possibilité de relayer par réflexe. Une fois que vous recevez une information, le premier réflexe ne doit pas être le relais, parce que vous ne savez pas les conséquences qu'il peut y avoir dans le relais de cette information. Vous ne connaissez pas non plus quelle est la source de cette information, encore moins l'intention derrière la production de cette information. Il faut toujours se dire que, ok, si j'ai des doutes, je regarde. Il y a des sources qui sont, on va dire, plutôt crédibles, comme Radio Capi, comme Radio Top Congo, comme 7/7.cd, comme Actualité.cd. Vous regardez plus ou moins ces écosystèmes-là. Est-ce que Radio Capi a diffusé cette information? Pourquoi Radio Capi ne l'a pas fait? Si Radio Capi ne l'a pas fait, c'est peut-être parce que les processus de vérification de cette information n'est pas encore arrivé à terme. C'est pas parce que vous avez besoin d'une information au moment M que vous devez avoir cette information au moment M, parce que l'information doit être collectée, traitée et diffusée d'être consommée par vous. Donc, prenez toujours le temps de pouvoir vous dire que vous pouvez arrêter la diffusion de fake news. Donc je dis, un, vous pouvez le faire par des moyens techniques, deux, par votre prédisposition à vous, et troisièmement, il y a aussi ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont, on va dire, les dispositions mentales que nous avons qui nous permettent de réagir quand on reçoit, on va dire, une information. Parmi ces biais cognitifs, il y a ce qu'on appelle les biais de confirmation. C'est-à-dire, pour moi, chaque fois qu'il y aura une information qui irait dans le sens de mes convictions, je penserai que c'est de la bonne information. Si je suis de gauche et que c'est une information qui conforte une position de gauche, ma prédisposition mentale voudrait que je puisse. Et les réseaux sociaux fonctionnent avec ce qu'on appelle les algorithmes qui vous embrigadent dans ce qu'on appelle de bulles informationnelles à travers des algorithmes. C'est-à-dire, quand vous allez sur TikTok, vous recevez plus des informations des types que vous avez souvent l'habitude de regarder. Et c'est ce qu'on appelle les bulles d'information. Il faut que vous soyez conscient de ces bulles d'information pour dire que les réseaux sociaux ne vous donnent que ce que vous réclamez, et ce qu'on vous réclame, ce n'est pas toujours vrai.
C'est pas toujours vrai.
C'est pas toujours authentique.
Alors, est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'aujourd'hui on a des journalistes engagés qui sont pour ou tel autre en politique, est-ce qu'ils peuvent aussi être à l'origine de la propagation des fake news?
Évidemment. Donc, dans l'écosystème de fake news en République démocratique du Congo, on a plusieurs terreaux. Parmi les terreaux, on a ce qu'on appelle les communicateurs politiques. Vous savez, les candidats, les hommes politiques parfois ne veulent pas se voir attribuer certains propos et utilisent parfois certaines personnes qui mettent en avant-plan pour aller dire des choses à la télévision, à la radio et dans des forums et consorts. Souvent, ça s'appelle les communicateurs. La conséquence, c'est que vous n'avez pas de grands experts qui participent au débat public, parce que souvent, dans certaines émissions, je ne parle pas de Radio Capi, vous avez ces communicateurs qui polluent les contextes informationnels avec des opinions et pas avec des faits. Et souvent, ces opinions sont basées sur pas de la réalité, pas de la bonne information.
Et ça sème la confusion dans les esprits.
C'est ce qu'on appelle la pollution, malheureusement. Vous avez ces communicateurs, vous avez également, on va dire, ces personnes qui pensent et qui disent qu'ils sont des journalistes, qu'elles sont des journalistes, qui ont, on va dire, des pages Facebook, des comptes Twitter ou des chaînes YouTube, et qui, malheureusement, en l'absence du rédacteur en chef, font passer tout et n'importe quoi. Vous savez, l'écosystème des médias fonctionne de sorte à avoir plusieurs filtres. Les journalistes, quand il fait son travail, il le ramène au niveau de la rédaction. Quand il l'amène au niveau de la rédaction, vous avez les secrétaires de rédaction, vous avez les rédacteurs en chef qui vont faire un travail de filtre, et vous avez tous les conseils de rédaction, avec tous les journalistes qui disent ça c'est vrai, ça c'est pas faux, ajoute ceci, ainsi de suite, pour qu'en fin de compte, quand vous aurez votre journal de 7 heures, que ça soit quelque chose de potable, quelque chose de très bon. Mais souvent, ceux qui sont indépendants n'ont pas ces filtres de secrétaires de rédaction, n'ont pas de conseils de rédaction, n'ont pas de rédacteurs en chef. Conséquence, c'est qu'ils reçoivent en premier, ils les diffusent malheureusement. Je ne parle pas de tous, mais en tout cas, la plupart d'entre eux. Conséquence.
Surtout à la recherche du scoop,
exactement.
La primeur, tout ça, de l'information.
Et troisièmement, vous avez également, évidemment, ces personnes qui se disent journalistes, qui sont plutôt à la solde, qui se disent journalistes engagés. Mais toujours, il faut se poser la question, journalistes engagés par qui paye? qui donne l'argent.
Voilà. Bien, dans votre ouvrage, vous avez Pollution de l'information, au chapitre 3, vous parlez de l'expérience congolaise des fake news. Et là, vous parlez de fake news de l'État, le Parlement debout, vodcast ou vlog politique, communicateur politique, milice numérique, rébellion, tout ça. Pouvez-vous, un instant, il y a un auditeur en ligne, on va l'accueillir et puis vous allez nous parler de tout ça. Maki Barak, vous êtes à Beni, bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour Pascal Good.
Bonjour. Quelle est votre question, Maki?
Je suis émerveillé de participer à cette émission à travers ce sujet parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Nous avons compris actuellement que les trois fléaux que l'invité venait de souligner, notamment les fake news, la malinformation, la désinformation, ont gagné l'espace médiatique de la RDC, si je peux le dire même. À Beni, ici, nous vivons des situations très critiques. Je peux le dire, c'est par le fait que les personnes qui participent à de tels actes ne sont pas poursuivies. Vous savez, comme mon prédécesseur venait de le souligner avec l'avènement du code numérique de 2023, il y a beaucoup de faits qui sont traités sur les réseaux sociaux, qui sont pénalisés. Mais ça reste toujours dans la théorie. Pratiquement, nous n'avons pas encore vécu de tels faits. Vous voyez, actuellement, ce qui fait la une chez nous, si je peux le dire au pays, c'est le voyage du chef de l'État. Et un bon matin, vous allez vous réveiller, quelqu'un vous dit, le président est perdu, le président est perdu. Et ce sont de telles informations qui sont prises consommées. Les informations qui sont prises consommées. Oui. Et ce sont des gens que nous qualifions la plupart des fois des journalistes citoyens. Je salue quand même le bravoure du président de l'UNPC, Beni, monsieur Mustapha Moulonda, qui essaie quand même de trouver le bon moment pour sensibiliser les journalistes. Même parce que parmi ceux qui contribuent à l'épanouissement de ces forces d'information, il y a même des journalistes. Oui. Vous allez constater que la plupart sont devenus des journalistes communicateurs, des politiciens, et lorsque ils veulent faire passer les informations concernant à leur maître, ils sont en train de manipuler les informations et même la communauté, même ceux qui utilisent les réseaux sociaux commencent à prendre ces journalistes comme référence.
D'accord, merci, merci beaucoup Maki, d'accord. On a compris. Martin Kalamba, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, c'est Radio Capi, merci.
Oui, quelle est votre préoccupation, Martin?
Ouais, ma préoccupation, comme je l'avais souligné dans mon commentaire par rapport au sujet, il y a d'abord la prolifération de canaux de communication, radio, télévision, sans compter les réseaux sociaux, parce que même le ministre Patrick Mouya, que je salue en passant, a essayé avec le ministère de communication et médias de réglementer, il n'a pas pu, il y a une année ou deux ans depuis qu'il est là, il a essayé de réglementer, ça n'a pas tenu. Alors, en dehors de la prolifération de canaux de communication, il n'y a pas une bonne surveillance. Tant que il n'y a pas la surveillance, il n'y a pas de contrôle, il y aura toujours un problème sérieux sur la désinformation. Je prends par exemple, je veux sortir de notre pays, je veux en dehors de frontières, il n'y a pas plus longtemps que le dimanche, il y a la RTBF plutôt qui a donné une mauvaise information selon laquelle le président de la République Félix Antoine Tshisekedi participait à la cérémonie de 30e commémoration des génocides au Rwanda. Oui, par exemple. Alors,
ils ont démenti,
mais nous les Congolais aussi nous préparons pour porter plainte. Alors, ceux qui n'ont pas vérifié cette information ont relayé sur les réseaux sociaux et surtout ceux de l'opposition qui ont récupéré l'affaire. Même maintenant là, il y a ceux qui n'ont pas suivi ces démentis qui continuent à relayer de fausses informations sur la toile que Félix était, son excellence le président de la République était bel et bien au Rwanda. Donc, c'est la surveillance, le contrôle et l'impunité. Parce que là, nous avons beaucoup d'organes. Nous avons CESAC, nous avons INPC, nous avons beaucoup de services publics, mais qui ne font pas réellement leur travail. Parce que si réellement les CESAC sanctionnaient selon ce qui lui revient comme droit, tous les médias qui relaient les fausses informations, les autres pouvaient se rétracter. Alors, quand il y a l'impunité...
Voilà, quand il y a l'impunité, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de surveillance. Voilà, on va toujours arriver à ce genre de situations. Patient Ligodi.
Déjà, il y avait cette première question, cette autre question de Monsieur Omar qui demandait si les non-journalistes, les non-diplômés en journalisme peuvent faire du journalisme. Mmh. Il y a l'ordonnance loi du 13 mars 2023 qui a notamment répondu à cette question en définissant dans son article 2, je crois, en définissant ce qu'on entend par journaliste professionnel. Toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État congolais et dont l'activité principale régulière et rétribuée consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Mais c'est pas tout. Mais on donne également la possibilité à ceux qui n'ont pas fait d'école de journalisme, on dit que toute personne titulaire d'un diplôme de licence, donc un bac plus 5 ou équivalent, suivi d'une pratique professionnelle de 3 ans dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information au sein d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Donc on va dire qu'aujourd'hui, il y a un encadrement qui est fait pour que n'importe qui ne prenne pas le micro parce que la prise de parole, c'est la prise de parole publique, c'est un couteau à double tranchant. Deuxièmement, s'il faut prendre également les interventions, il faut dire que côté journalistique, nous avons beaucoup de responsabilités. Malheureusement, on est dans un pays où parfois le laxisme est de mise. Vous avez aujourd'hui, selon le code du numérique et même le code pénal, où vous prenez également la loi sur l'exercice de la liberté de la presse, vous avez des peines qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement si vous êtes auteur d'une publication qui rentre dans le cadre de la désinformation avec l'intention de nuire qui est prouvée.
Donc, ça, c'est la loi sur le numérique.
Ça avec le code du numérique, vous pouvez arriver jusqu'à 5 ans. Vous avez des peines qui vont de 1 mois jusqu'à 6 mois, mais vous pouvez également, avec l'intention, arriver jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.
Mais ça doit être vulgarisé.
Oui, ça doit être vulgarisé, mais encore, quand vous avez un pays comme le nôtre, où le taux de scolarité n'est pas aussi très élevé, la pénalisation ou la criminalisation de faits reconnus comme étant de la désinformation ne suffit pas. Il faut, on va dire, une batterie de mesures qui doivent être mises en place. Évidemment, il y a cette criminalisation de fake news. Il doit y avoir également un travail qui soit fait au niveau de l'organe de régulation des médias, donc du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, qui contrôle, qui régule les contenus des médias. Il faut absolument que le CESAC puisse mettre en place un contexte et une écologie technique qui permette de suivre tous les médias et de pouvoir être à même de traiter les plaintes qui sont déposées par les utilisateurs des médias, le consommateur des médias. Troisièmement, vous avez ce qu'on appelle les organes d'autorégulation des médias, c'est-à-dire une sorte de tribunal de pairs où des journalistes entre eux disent que telle personne, quand bien même serait journaliste, a commis une faute déontologique, une faute en diffusant une information qui n'a pas été démentie, mais c'est une fausse information. Malheureusement, dans notre pays, l'Union nationale de la presse du Congo est quasiment dans une situation
de léthargie,
et on attend qu'elle organise son congrès pour relancer les activités. On avait à l'époque l'Observatoire des médias congolais, l'OMEC, qui n'est plus aussi actif comme il était. Et troisièmement, vous avez également des organisations professionnelles des médias, l'Association des journalistes de la presse, de la presse papier, l'Association des tels... Toutes ces organisations-là doivent se mettre ensemble pour arriver à réguler plus ou moins les contenus. Et en plus de ça, vous avez également un travail qui doit être fait avec les plateformes numériques comme Twitter, comme Facebook, comme YouTube et consorts pour décourager la publication de fausses informations, la publication intentionnelle de fausses informations, de sorte, par exemple, pour ceux qui gagnent de l'argent en publiant de fausses informations, qu'on arrive à démonétiser, c'est-à-dire à faire en sorte que l'on ne puisse plus gagner de l'argent.
Il y a toujours un intérêt financier.
Il y a aussi
derrière
un intérêt économique pour certains qui gagnent de la publicité derrière de fausses informations.
Okay.
Et ça, c'est un travail qui peut être fait et qui doit être fait en collaboration avec les plateformes numériques.
Par rapport au nombre de vues, des partages.
Tous ces éléments-là, exactement.
Ça rapporte de l'argent.
Ouais. Mais aussi, à côté de la démonétisation, il faut également arriver à contextualiser. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une fausse information qui est publiée, que ces réseaux-là puisse mettre en place, on va dire, des sources comme Radio Capi, comme le, tel autre journal, qui sont des sources crédibles, qui seraient en mesure de pouvoir. En plus de ça, on a ce qu'on appelle l'éducation aux médias.
Bien, parlez-nous à présent de l'expérience congolaise des fake news.
Alors, on a plusieurs expériences. On a, pour ne prendre par exemple l'expérience de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, vous avez plusieurs stratégies qui sont utilisées. Vous avez par exemple certaines rébellions qui utilisent des personnes fantômes. Ces personnes-là n'existent pas, qui sont simplement des comptes qui sont alimentés par des personnes malveillantes dans les buts de pouvoir désorienter, dans les buts de pouvoir déstructurer, dans les buts de pouvoir démoraliser, dans les buts de pouvoir faire en sorte de donner l'impression que, par exemple, l'armée ne fait pas bien son travail. Mm-hmm. Par exemple, c'est pas par hasard que vous verrez, par exemple, certains comptes publiés d'une manière récurrente avec, on va dire, beaucoup d'appétit. Des militaires qui sont ivrognes. Tout ça, ça rentre dans une stratégie pour que vous n'ayez pas confiance, par exemple, à l'armée. Ça, c'est une manifestation, on va dire, de ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire une guerre qui n'utilise pas que les bombes, mais qui utilise également des attaques informationnelles dans le but de déstructurer l'armée en face. Mmh. Vous avez également l'utilisation des fausses agences de presse. Vous avez, par exemple, une agence qui s'appellerait Agence Routour ou presse, qui n'existe pas, mais qui enverrait de contenu aux journalistes qui peuvent ou n'est pas...
Et les journalistes qui ne sont pas visés peuvent les exploiter.
Exactement. Mmh. Et vous avez également de faux journalistes, des journalistes qui n'ont pas exercé ou qui ont exercé à une certaine époque, mais qui n'exercent plus, mais qui sont au service, on va dire, de forces politiques ou de forces militaires qui vont propager, on va se dire, par exemple, aujourd'hui, si je dis cesse d'être journaliste, mais il y a quand même votre aura en tant qu'ancien journaliste qui reste, qui peut être utilisé dans les buts de pouvoir désorienter en utilisant votre nom avec une sorte de caution morale à ce but. Ça, c'est par rapport au travail qui est fait sur les réseaux sociaux, sur les terreaux politiques, les terreaux sécuritaires. Mais vous avez également les terreaux se manifeste par ce que, par exemple, Facebook appelle l'utilisation de comportements inauthentiques coordonnés. Alors, les comportements inauthentiques coordonnés, c'est par exemple un individu qui a 15, 20, 30 comptes, mais ça appartient à une seule personne, et qui oriente, on va dire, une communication dans le sens soit de détruire un adversaire politique, soit de pouvoir s'attirer la sympathie de certaines personnes dans le but de pouvoir, on va dire, créer une sorte, ce qu'on appelle les tendances, les trends sur les réseaux sociaux pour faire croire que telle personne est populaire ou telle personne est mauvaise, ainsi de suite. Vous avez vu, par exemple, pendant la campagne électorale, des attaques qui ont été administrées contre un candidat, je prenais l'exemple de Dr Mukwege, où vous avez une sorte d'armée numérique qui s'est attaquée à lui en disant qu'il était pour la promotion de l'homosexualité. Il y avait même un hashtag qui a été créé, Mukwege avec G-A-Y à la fin. Il y avait également de photos de lui qui étaient détournées dans ce sens-là, mais dans un objectif électoral bien précis. Mais souvent, ce type d'attaques informationnelles sont organisées, orchestrées par ce qu'on appelle le comportement inauthentique coordonné. C'est-à-dire, Facebook arrive parfois à déterminer que, par exemple, il n'y a qu'un seul ordinateur qui gère 8, 10, 30, 40, 50 comptes. Alors, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un objectif qui est derrière dans la désinformation. Mmh. On a également d'autres exemples. Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui, il n'y a pas que l'UDPS qui l'a. Presque tous les partis politiques ont développé l'expérience de Parlement debout. Mais malheureusement, ces parlements debout-là ne sont toujours pas contrôlés par les chefs de parti ou par les secrétaires généraux. Vous pouvez avoir des personnes qui sont malveillantes, qui vont se mettre dans un coin, qui vont prendre un téléphone et qui vont commencer à se filmer, qui commencent à insulter, qui commencent à créer des choses. On a vu l'expérience notamment de Madame Mabunda, qui a été vilipendée à longueur de journée, qui a été traité de non-congolais. Certains disaient même qu'il était tutsi. On lui a trouvé des choses, ainsi de suite, par rapport à son apparence physique, par rapport à tout. Et tu sentais que c'était organisé, orienté. Alors, ces types, on va dire, de parlement debout détourné, parce que c'est loin d'être le parlement debout que nous, on a connu aux années, dans les années 90, et qu'on sort avec notamment l'UDPS, où vous avez des personnes qui sont quasiment pas très, encadrées, et qui vont dire des choses dans les buts de s'attaquer aux personnes, et ces choses-là sont partagées sur les plateformes numériques, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, et parfois sur WhatsApp, où c'est quand même assez difficile dans un groupe WhatsApp de pouvoir lutter contre...
Vous parlez aussi des vodcasts ou vlogs politiques.
Alors, le vlog politique, c'est, on va dire, tous ces journalistes ici, parfois c'est certains pseudo-journalistes qui prennent leur caméra, ils sont seuls, ils commencent à parler. Ils parlent pendant 2 heures. Il n'a pas de notes.
Seul.
Okay. Il n'a pas de notes.
Il parle de quoi?
Ben, il parle de la politique, il s'attaque à X, il s'attaque à Y, et ainsi de suite. Et souvent, c'est des contenus qui ont un certain succès sur les plateformes numériques, particulièrement YouTube, consommés essentiellement par les Congolais de l'étranger, mais davantage ici. Et vous avez les bouts de ces vlogs qui sont partagés sur d'autres plateformes et parfois sur WhatsApp également, qui contribue malheureusement à désinformer, à mésinformer et à propager un climat qui ne permet pas un débat public sain, malheureusement.
Et il semble que les gens qui suivent ces genres de choses, c'est parce que ça vient conforter leurs préjugés, les préjugés qu'ils ont déjà bien avant.
C'est comme ça que je parlais notamment de biais cognitifs, les biais de confirmation, qui fait en sorte que vous avez une certaine conviction, et cette conviction est renforcée par du contenu qui vous renferme dans une sorte de bulle informationnelle, qui fait en sorte que la société vit dans une sorte de clivage, où vous avez d'un côté, je vais me permettre de le dire, les Pakistanais, de l'autre, vous avez les talibans, de l'autre, vous avez Khashoggi, et de l'autre, vous avez Pyongyang, et consort. Donc, vous avez des blocs qui sont solides, où la raison est quasiment absente, et on définit ou on développe un argumentaire comme si on était des fans de football, alors que parfois on parle des choses sérieuses, on parle parfois des questions qui concernent l'État.
Bien, on va accueillir Justin Kalabia de Bounia et Fabien Kambi de Kindu. Nous parlons de la lutte contre la pollution de l'information avec Patient Ligodi qui vient de publier un ouvrage intitulé « Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo ». Martin est déjà passé. Justin Kalabia, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi à Patient Ligodi.
Quelle est votre question?
Merci Monsieur Jody, en tout cas de m'avoir associé dans cette très bonne émission. Par rapport en tout cas à la désinformation en République démocratique du Congo. Monsieur Jody, en tout cas la désinformation, ça devient une monnaie courante aux réseaux sociaux. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, de mauvaises choses qui se passent en tout cas. Je me demande, est-ce que dans le monde entier, ce qui se fait aux réseaux sociaux, ce qui se passe en République démocratique du Congo, est-ce que c'est comme ça que ça se passe en Amérique ou ça se passe en Allemagne? Ça, c'est Patient Ligodi qui va me répondre à cette question. Et la question, la deuxième question, monsieur Jody, quelle est la loi qui protège, en tout cas, la désinformation? Lorsque quelqu'un parvient à donner une fausse information aux réseaux sociaux, et déjà, parfois, il y a certaines personnes qui apprécient, ils commentent, ils mettent même des commentaires dans cette publication mensongère. Et quelles sont maintenant, quelle est la loi qui est en vigueur, qui protège en tout cas aux gens de faire des mauvaises informations pareilles? Parce que ce que nous traversons à la République, parfois à l'Est, les gens comme nous sommes à l'Est, les gens meurent pas mal. Alors il y a même certaines personnes qui ont dit que Tshisekedi, le président Tshisekedi est allé au Rwanda pour la commémoration, bien évidemment, des massacres
qui s'étaient passés à Minnesota. Oui, Justin. Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité rapidement? Parce que les autres
la question
attendent.
Que j'adresse à l'invité, monsieur Jody.
Oui.
Que dit la loi lorsque une personne parvient à déformer une information, la troisième pour terminer. Et lorsque cette personne est attrapée, quelles sont les sanctions prévu par la loi? Merci monsieur Jody et bonne journée.
Bien, merci à vous. Fabien Kambi de Kindu, bonjour.
Bonjour monsieur Jody, Daniel Kanchama, bonjour aussi à notre invité.
Quelle est votre question Fabien?
Bon, moi je n'ai pas vraiment une question, c'est peut-être une contribution à cette émission. Et je voudrais dire que la lutte contre la pollution de l'information en RDC est un enjeu crucial pour la préservation de la démocratie et de la stabilité sociale. Moi je pense qu'il est essentiel de promouvoir la vérification des sources, la transparence et l'éthique journalistique pour contrer la propagation des fausses nouvelles. Et aussi les médias traditionnels et les plateformes en ligne doivent jouer un rôle clé pour la diffusion de l'information fiable et vérifiée. Il est également important pour le public d'être éduqué pour les techniques de discernement d'une information qui est authentique et une information qui n'est pas vraie. Parce que j'aimerais partager une expérience. Il y a la plateforme GR du web de l'UNICEF qui était mise en ligne. Là-bas, on est en train d'éduquer, n'est-ce pas, les internautes sur comment vérifier une bonne information, comment trouver une fausse information. C'est en tout cas une plateforme où je pourrais partager que beaucoup d'auditeurs de la radio Kati doivent vérifier et s'abonner dans cette page-là de GR du web en RDC. C'est une plateforme mise en place par l'UNICEF en RDC où il y a les jeunes qui ont de 15 à 24 ans. Ils sont en train de travailler là-dessus pour lutter contre les fausses informations, mais aussi éduquer la population civile.
D'accord.
Et discernement d'une bonne information et de la mauvaise information.
Merci beaucoup. Ça s'appelle comment?
VRDC, voilà.
D'accord. Merci beaucoup pour ce partage, Fabien Kambi de Kindu. Patient Ligodi, à vous la parole.
Oui, il y a cette question qui revient souvent sur qu'est-ce qu'on encourt quand on publie une fake news. Ouais. En fait, il y a par exemple l'article 363 qui détaille des sanctions plus sévères pour des actions intentionnelles telles que le déclenchement de la transmission des messages erronés, l'utilisation des systèmes informatiques pour tromper les utilisateurs, la falsification des informations d'entête et des messages électroniques. On voit souvent dans les communiqués qui sont partagés, parfois les communiqués qui sont on prend l'entête d'un communiqué d'un ministère, on met des fake news dessus. Et la loi dit qu'il sera puni d'une servitude pénale de 2 à 5 ans et d'une amende de 10 millions à 50 millions de francs congolais ou d'une de ces peines seulement toute personne qui intentionnellement et sans motif ou justification légitime ou en se prévalant à tort d'un motif ou d'une justification légitime, déclenche la transmission de messages erronés, indésirables ou contraires à la loi, des courriers électroniques multiples à partir ou par l'intermédiaire d'un système informatique. Donc, vous voyez très bien que vous pouvez aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement si jamais vous, intentionnellement, vous fabriquez ou vous diffusez du contenu qui est faux ou qui est falsifié. Donc, il y a évidemment la loi, comme je dis, les peines qui sont applicables, mais il y a aussi le fait que on doit avoir un encadrement plus global au-delà de la criminalisation des fake news, la régulation des médias, la co-régulation avec d'autres instances, l'autorégulation donc en interne du système médiatique, mais aussi la collaboration avec ce qu'on appelle les écoles pour ce qu'on appelle l'éducation aux médias, pour que nos enfants s'habituent déjà à la culture numérique et qu'ils développent des capacités qui vont leur rendre conscients des biais cognitifs que nous avons, qui sont utilisés comme des pièges par les algorithmes des réseaux sociaux pour que l'on ne puisse pas rentrer et vivre essentiellement dans des fake news.
Bien, comment lutter contre la pollution de l'information? On en parle aujourd'hui avec Patient Ligodi, directeur général d'actualité.cd, auteur du livre Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en RDC. Voilà. Alors, dans cet ouvrage, au chapitre 5, vous parlez des stratégies de lutte contre les fake news. Je vois là l'autruche, c'est terre, relais, puis debunking, fact-checking, etc. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Par exemple, on a certains médias qui, on les voit souvent avec des grands médias de Kinshasa, qui ne développent pas ce qu'on appelle de desk lié au fact-checking, qui considère le fake news comme tout faux que l'on peut avoir à la rédaction. Dans nos rédactions, souvent, on s'est dit, quand c'est faux, donc on ne traite pas. Et donc voilà, on s'intéresse à ce qui est socialement significatif et ce qui est vrai et ce qui est ainsi de suite. Et ça, c'est parfois un réflexe qu'on a dans certains médias. C'est comme ça que je dis, c'est la politique de l'autruche. Donc, vous remettez la tête dans les sables en oubliant que le fake news peut avoir, on va dire, des conséquences assez déstabilisatrices dans la société. Mmh. Alors, parmi d'autres stratégies qui sont utilisées, c'est notamment arriver à développer, comme je le vois, par exemple, chez Radio Capi, où vous avez une émission qui essentiellement lutte contre les fake news.
Oui.
Les faits sont sacrés.
Voilà.
Et ça, par exemple, on a une émission en particulier qui s'occupe de ça, mais moi je conseille souvent à côté des émissions, c'est dans la chaîne de l'information que l'on puisse être conscient que les fake news existent et que l'on puisse développer les réflexes, pas simplement dans une seule émission, mais dans tous les processus du traitement de l'information pour que tous les journalistes soient conscients de l'existence des conséquences de fake news et qu'on sort pas plus tard qu'il y a hier. On a vu ce qui s'est passé avec l'information entre guillemets selon laquelle le président serait à Kigali, et quelqu'un a dit
le président est perdu.
Voilà. Alors, si le journaliste met dans la chaîne du traitement que les fake news peuvent exister, il prendra du temps, du recul pour aller vérifier et se dire, ah bon, j'ai entendu, est-ce que c'est vrai? Et quels sont les éléments qui sont en ma possession, ainsi de suite. Alors, il y a aussi d'autres stratégies qui sont développées. Ce qu'on appelle la certification de l'information, c'est arriver à faire en sorte que l'on crée ce qu'on appelle des extensions des navigateurs sur les sites internet. C'est-à-dire, vous avez votre navigateur, par exemple, Google, Uber, Firefox et consort. Vous téléchargez une extension qui peut vous dire, attention, ce site ici est réputé pour la propagation de fake news et consort. À côté de la certification, vous avez également ce qu'on appelle la labellisation. La labellisation, c'est une norme qui a notamment été développée par Reporters sans frontières, qui permet que, par exemple, le site de Radio Capi aille faire une sorte de test sur le site de Reporters sans frontières pour dire que, voilà, on vous pose des questions sur comment vous fonctionnez, quelle est votre source de financement, comment vous traitez les informations, et à la fin de ce test-là, on vous donne une sorte de label pour dire que ce site-là est conforme et ces sites-là diffusent des bonnes informations. C'est des initiatives qui peuvent être menées notamment par le CSAC, qui peut en tout cas donner comme ça une sorte de labellisation. Attention, ce site-là n'est pas crédible, ce site ici est crédible,
etc.
Voilà. Alors, à côté du fact-checking, je parlais de la certification, je parlais de la labellisation, mais vous avez également d'autres techniques qui sont utilisées, comme par exemple l'échelle de véracité. Ça, on le voit souvent aux États-Unis, ou bien quand le président de la République parle, quand il aura fini, on vous dit que ce qu'il a dit ici, par rapport à l'échelle de la véracité, il est à 50% vrai, il est à 100% vrai, il est à 60% vrai, ainsi de suite. Ce travail-là permet de pouvoir, responsabiliser ceux qui ont la parole publique, mais ça permet également à ceux qui consomment l'information de savoir que, attention, ici c'était vrai, ici c'était faux. On l'a vu également avec le président Trump, quand il quittait le pouvoir, les jours de l'élection, vous avez sur Facebook, notamment, chaque fois qu'il disait que lui, il a remporté les élections, vous avez un bandeau en bas qui était publié par Facebook qui disait, attention, ce qu'il dit n'est pas vrai, parce que les vrais résultats vont être publiés dans la soirée par Associated Press. Donc, tous ces mécanismes-là sont des stratégies qui sont utilisées pour lutter contre la
désinformation. Maintenant, le consommateur final, le commun des mortels, qui tombe sur une information, quels sont juste les éléments, les premiers éléments qui peuvent l'aider à s'assurer que c'est une fausse ou une vraie? Distinguer la vraie du faux.
Ça dépend du type de contenu qu'il a en face de lui. Par exemple, quand il s'agit d'un document comme un communiqué de presse, souvent c'est une superposition de signature. Vous verrez par exemple que la qualité de la signature ou bien les tons ou bien la police n'est pas la même. Vous verrez qu'il y a des caractères qui se superposent ou ainsi de suite, qui
ne sont pas
des fautes d'orthographe souvent qui sont repérées. Et vous avez également, quand il s'agit des photos d'hommes ou des femmes ou des enfants, parfois c'est un organe qui n'est pas très visible. Vous verrez par exemple des personnes avec 6 doigts ou bien avec un doigt qui n'est pas... Souvent, c'est des images qui sont générées par l'intelligence artificielle générative. Vous avez toujours quelques, on va dire, anomalies qui se présentent. Donc, il faut bien regarder, observer, faire, donc utiliser le
sens réflexe, d'analyse, le sens critique.
Oui, voilà. L'esprit critique, c'est important.
Voilà. Pour distinguer la vraie de la fausse information. Bien, on est presque à la fin de cette émission. Alors, l'ouvrage est disponible. Comment le trouver? Où est-ce qu'on peut s'en procurer pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient bien lire?
Alors l'ouvrage est terminé. Les exemplaires qui étaient venus, que l'éditeur avait envoyés, les 100 premiers sont épuisés. Et mais il y a d'autres exemplaires qui arrivent dès la semaine prochaine à Kinshasa, que l'on peut retrouver dans les grandes librairies de Kinshasa. Mais il y a aussi un numéro de téléphone que je pourrais partager qui permet notamment de faire, on va dire, un travail où vous pouvez vous réserver une copie. C'est les 083 82 82 961.
Donc 083 82 82 961.
Oui, c'est le numéro de l'agent libre, l'agent littéraire auprès de qui l'on peut s'enregistrer pour avoir une réservation. Mais dès la semaine prochaine, on peut le retrouver dans les grandes librairies de la place.
Bien, Patient Ligaudy, directeur général d'actualité.cd, auteur du livre Pollution de l'information. Merci.
Merci à vous.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. Polydor Basunga était à la mise en onde. Tati Mapuku a assuré la coordination et la réalisation au micro. Je dis Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Et à la prochaine.